Audiolib présente Une vie si lointaine de M.L. Stedman, traduit de l'anglais d'Australie par Odile Demange, lu par Samuel Charles. Pour les précieux conseils avisés, avec toute ma gratitude. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Terence, le bourreau de soi-même. Au-delà du bien et du mal, il y a un jardin. C'est là que je te retrouverai. Rumi. Première partie. Chapitre 1. Australie occidentale. Vendredi 10 janvier 1958. Ici, la terre rouge s'étend à perte de vue. Là-haut, le soleil laboure une étendue d'un bleu sans fin. Sous un mulga vert de gris, un lézard cherche ombre et pénombre. Des fourmis bâtissent des nids qui résisteront à la chaleur. Des kangourous aspirent l'humidité des feuilles tendres, faisant pivoter leurs oreilles pour localiser un grondement lointain. Sur la ligne droite vermillon qui sépare les arbres clairsemés, un camion approche. Les trois hommes de la famille McBride sont assis l'un à côté de l'autre sur la banquette avant du Bedford, comme des poupées russes désemboîtées. Les cheveux bruns et raides de Phil et son visage ovale se retrouvent chez Warren, son fils aîné, et ceux de Matt, le plus jeune, leur font écho. Ils se ressemblent tous comme deux gouttes d'eau, et c'est pareil depuis des générations. De l'avis de tous, Rosie, la fille née entre les deux frères et qui est restée à la maison aujourd'hui, est sortie du même moule, elle aussi. La mère, Lorna, n'a pas eu son mot à dire. Un McBride se reconnaît à 1 kilomètre. Warren donna un coup de poing sur le bras de son petit frère. « Arrête un peu tes conneries. »«
Mais non, faire le tour du monde à la voile, découvrir des îles désertes, » répliqua Matt. « Ça serait génial. »«
Ah ouais ? Eh ben, il va falloir y mettre de l'huile de coude si tu veux pas que ton rafio soit bouffé par les termites et coule aussitôt que tu l'auras mis à l'eau, » intervint leur père.
Il poussa le levier de vitesse pour aider la bétaillère à aborder la pente. À l'arrière, les quelques dizaines de moutons bêlèrent. Que les McBride aient un bateau sur le terrain de leur station d'élevage Auvin n'aurait rien eu d'extraordinaire si leur propriété avait été située n'importe où sur les 1000 kilomètres de littoral de l'État. Mais Meredith Downs, qui couvre près de 500 000 hectares arides, est à l'intérieur des terres, empiétant même sur le désert par endroits.
C'était quoi déjà ce pari ? Demanda Matt.
La discussion avait commencé quand ils avaient dépassé une forme imposante qui s'élevait, isolée, dans le lointain. Le hangar de Monty. Portant le nom de l'oncle de Phil, Montgomery McBride, c'était la construction la plus excentrique à des centaines de kilomètres à la ronde. La raison pour laquelle un lougre perlier intégralement gréé s'était retrouvé à Meredith Downs, une propriété de 20 000 moutons où la moyenne annuelle de précipitation ne dépassait pas 200 mm, avait donné lieu à une légende qui avait considérablement embelli au fil du temps, mais dont les grandes lignes étaient restées immuables. Une dette d'un vieux camarade de Monty, réglée en nature, la caravane de dromadaires conduite par des Afghans qu'il avait remorqués, le rêve qu'un jour, Monty naviguerait lui-même à son bord, peut-être au large de la côte sud du continent, même s'il n'y avait pas de perles dans l'océan austral glacial. Il avait été baptisé l'Alpha Crucis, du nom de l'étoile la plus brillante de la constellation de la Croix du Sud. En 1915, quand Monty était parti d'un pas martial pour aller faire son devoir dans la Somme, son père lui avait promis de l'entretenir correctement.